émission autour du conte proposée par Étienne Chotin et Nini Villegas pour Radio Vassivière. Vous pouvez écouter les Araignéides un mercredi sur deux à 15h et chaque dimanche à 18h. Podcaster l'émission sur radiovassivière.com.
Obstacle. Méditation guidée de Georges Bucquet. Je marche sur un sentier. Je laisse mes pieds me porter. Mes yeux se posent sur les arbres, les oiseaux, les pierres. Au loin se détache la silhouette d'une cité. J'aiguise mon regard pour mieux la distinguer. Je me sens attiré par elle. Sans savoir comment, je me rends compte que je pourrais trouver tout ce que je désire dans cette cité. Tous mes désirs, mes objectifs, mes succès. Mes ambitions et mes rêves se trouvent dans cette cité. Ce que je veux obtenir, ce dont j'ai besoin. Ce pourquoi je travaille. Ce que je tente. Ce que je voudrais le plus être. Ce à quoi j'aspire. Ce qui serait la plus grande de mes réussites. J'imagine que tout cela se trouve dans cette cité. Sans hésiter, je me dirige vers elle. Peu après m'être mis en chemin, le sentier se met à monter. Je me fatigue un peu, mais ça n'a pas d'importance. Je continue. Plus loin sur le sentier, j'aperçois une grande ombre noire. En me rapprochant, je me rends compte qu'un immense fossé m'interdit le passage. J'ai peur, je doute. Je suis contrarié de ne pouvoir atteindre mon but avec facilité. Quoi qu'il en soit, je décide de franchir le fossé. Je recule. Je prends mon élan, je saute et je me réceptionne dans l'autre côté. Je me redresse et poursuis mon chemin. Quelques mètres plus loin, un autre fossé apparaît. Je reprends mon élan, le saute et passe aussi. Je me mets alors à courir vers la cité. La voie paraît enfin libre, dégagée. Soudain, un abîme gigantesque m'interdit le passage. Impossible de passer. Sur le versant, j'aperçois des outils, des clous, du bois. Je me rends compte qu'ils sont là pour fabriquer un pont. Je n'ai jamais été habile de mes mains. J'envisage de renoncer. Mais je m'enhardis et je commence à construire le pont. Passent les jours, les semaines, des mois peut-être. Le pont est enfin terminé. Tout ému, je le traverse. C'est alors que je découvre le mur. Un immense mur, gris, froid et humide, entoure la cité de mes rêves. Je me sens abattu. Je cherche comment l'éviter. Il n'y a pas moyen. Il faut l'escalader. Je me propose de grimper. Je ne laisserai pas un mur se dresser entre moi et la cité de mes rêves. Je prends quelques minutes pour reprendre mon souffle. Au bord du mur, au loin, j'aperçois un enfant qui me regarde avec un sourire complice. Il me rappelle moi quand j'étais enfant. Et peut-être pour cette raison, j'ose exprimer ma plainte à voix haute. Pourquoi tant d'obstacles entre mon objectif et moi ? Que veux-tu que je te réponde ? Reprit l'enfant. Les obstacles n'étaient pas là avant que tu n'arrives. C'est toi qui les as mis. Obstacle. Méditation guidée de Georges Bucquet. Le génie menteur ou les sept miroirs de l'âme de Charles Brûlart. Il était une fois un prince qui trouvait les gens autour de lui méchants et égoïstes. Il s'en ouvrit un jour à son précepteur, un vieil homme sage et avisé. Celui-ci lui remet une bague et lui dit « Cette bague est magique. Si tu la tournes trois fois, un génie t'apparaîtra. Toi seul le verras. Chaque fois que tu seras insatisfait des gens, appelle-le, il te conseillera. Mais fais attention. Ce génie ne dit la vérité que si on ne le croit pas. Il cherchera sans cesse à te duper. » Un jour, le prince entra dans une grande colère à l'encontre d'un dignitaire de la cour qui avait agi contre ses intérêts. Il fit tourner trois fois la bague. Aussitôt, le génie apparut. « Que penses-tu des agissements de cet homme ?» demanda le prince. « S'il a agi contre toi, il est indigne de te servir. Écarte-le ou soumets-le. » Le prince acquiesça, mais il se souvint des paroles étranges de son précepteur. Alors il mit en doute ce que le génie lui disait. « C'est vrai, reprit le génie, je cherchais à te duper. Tu peux bien sûr asservir cet homme, mais tu peux également profiter de cette occasion pour apprendre à négocier, à traiter avec lui et trouver une solution qui vous satisfasse tous les deux. Un jour, qu'il se promenait dans la cité avec quelques-uns de ses compagnons, le prince vit une grande foule entourer un prédicateur populaire. Il écouta quelques instants le prêche de cet homme. Et il fut profondément choqué par des paroles qui contrastaient violemment avec ses propres convictions. Il appela alors le génie. « Que dois-je faire ? » s'enquit-il. Fais-le taire. Cet homme est dangereux. Il propage des idées subversives. Il représente un danger pour toi et pour tes sujets. Fais-le taire ou rends-le inoffensif. Cela me paraît juste, pensa le prince, mais il met tout de même en cause la parole du génie. « C'est vrai, reprit-il, je cherchais encore à te tromper. Tu peux neutraliser cet homme, mais tu peux aussi examiner ses croyances, remettre en question tes propres certitudes et t'enrichir de vos différences. Pour l'anniversaire du prince, le roi fit donner une grande fête, où furent conviés rois, reines, princes et princesses. Au cours du dîner, le prince s'est pris d'une belle princesse qu'il ne put quitter des yeux et qu'il invita maintes fois à danser, mais sans oser lui déclarer sa femme. Un autre prince arriva et invita à son tour la princesse. Notre prince sentit alors monter en lui une jalousie profonde. Il appela son génie. « Que dois-je faire ?»« C'est une crapule, » reprit le génie. « Il veut te la prendre. Provoque-le en duel et tue-le. » Le prince s'apprêtait à acquiescer, mais il se ravisa. « Tu me mens, » reprit-il. « C'est exact. » Ce n'est pas ce qu'a fait cet homme qui te dérange, mais les démons de tes propres peurs qui se sont réveillés lorsqu'il a invité la princesse. Tu as peur d'être délaissé, d'être rejeté, d'être abandonné. Tu as peur de ne pas te sentir à la hauteur. Ceux qui se réveillent en toi dans ces moments difficiles te révèlent quelque chose sur toi-même. Lors du grand conseil du royaume, les seigneurs des différentes provinces se réunirent. À cette occasion, un jeune noble téméraire critiqua acidement le prince quant à sa gestion de quelque affaire du royaume. Le prince ne sut que répondre devant de telles accusations et resta cloué sur place. L'autre repartit de plus belle. Et le prince ne put que se taire, la rage au cœur. Il fit tourner la bague. Ôte-lui ces titres de noblesse et ces terres, lui susurra le génie. Cet homme cherche à te ridiculiser devant tes conseillers royaux. Dis-moi la vérité. Reprit le prince. Je vais te la dire, même si elle ne te plaît pas. Ce n'est pas ce qu'a dit cet homme qui t'a déplu, mais l'impuissance dans laquelle tu t'es retrouvé et ton incapacité à te défendre. Dans une auberge, le prince vit un homme entrer dans une grande colère. Et briser table et chaise. Le prince voulut punir cet homme, mais demanda d'abord conseil au génie. Cet homme a mal agi. Il est violent et agressif. Punis-le. Tu cherches encore à me tromper, n'est-ce pas? Oui. Bien sûr, cet homme est mal agi. Mais si sa colère te met dans un tel état, c'est parce que tu es toi-même colérique et que tu n'aimes pas te mettre dans cet état. Cet homme est ton miroir. Plus tard, sur le marché, le prince vit un marchand qui s'apprêtait à fouetter un jeune garçon qu'il accusait d'avoir volé un fruit. Or, le prince avait vu filer le vrai voleur. Il se jeta sur le marchand, arracha le fouet des mains et s'apprêtait à le battre, mais préféra faire d'abord appel au génie. Cet homme a mal agi, reprit le génie. Il mérite le fouet pour ce qu'il a fait. Tu cherches encore à me duper. Tout à fait. Si cette scène te met dans cet état, c'est que l'injustice que s'apprêtait à subir ce garçon te rappelle une autre injustice subie dans le passé. Cela a réveillé en toi une vieille blessure. Le prince réfléchit alors à tout ce que lui avait dit le génie. Mais si je comprends bien, personne ne peut m'énerver, me blesser ou me déstabiliser. Tu as tout compris, reprit le génie. Ce qui se réveille en toi, dans ces occasions difficiles, te révèle quelque chose sur toi-même. Ce sont les démons de tes propres peurs, tes souffrances, tes failles, tes peines. Si une mèche allumée est placée dans une jarre pleine d'huile, la jarre s'enflammera. Mais si la jarre est vide, ou qu'elle ne contient que de l'eau, le feu cessera de lui-même. Les agissements des autres, ou leurs paroles, provoquent en toi un agacement. Et cet agacement est comme un feu qui s'allume en toi et peut te brûler, te consumer ou te détruire. Mais il peut également t'illuminer, te forger, te façonner et faire de l'autre un allié sur le chemin de la transformation. Chaque rencontre difficile devient alors une épreuve, une confrontation avec toi-même. Il me reste encore une question, prince. Qui es-tu? Je suis, moi aussi, ton reflet dans le miroir. Le génie menteur ou les sept miroirs de l'âme de Charles Brûlhart.
Si vous t'aimez, vous filles, fait miaou, caboulez ça. Na sala de vajo. Si vous tem, pour filho, filho, fêmea. Cabure sala, na sala de vajo. Sala de vajo. Sala de vajo.
Les deux loups, légende amérindienne, d'après la version transmise par mon amie Elisabeth Tollier. Un vieux Cherokee raconte à son petit-fils. Il y a un combat à l'intérieur de moi. Il s'agit d'une lutte terrible et acharnée entre deux loups. L'un est le mâle, il est la colère. L'envie, le regret, la peine, l'arrogance, la cupidité, l'apitoiement, la culpabilité, l'infériorité, le mensonge, la fausse fierté, la supériorité et l'ego. L'autre est le bien. Il est la joie, la paix, la sérénité, l'humilité, l'amour, l'espoir, la compassion, la gentillesse, la générosité, l'empathie, la vérité et la foi. Ce même combat se produit à l'intérieur de toi et à l'intérieur de tout le monde. Le petit-fils réfléchit une minute et demanda: lequel de ces deux loups gagne? Vous connaissez peut-être la version. Celui que tu nourris. Mais chez les Cherokees, l'histoire prend une autre tournure. Si je les nourris correctement, reprend le grand-père, ils gagnent tous les deux. Si je décide de nourrir seulement le loup blanc, le noir se cachera et profitera d'un moment d'inattention ou de faiblesse pour sauter et rechercher l'attention qu'il désire. Mais si je les nourris correctement, si je nourris le loup noir correctement et que je le reconnais, alors il sera heureux. Et le loup blanc sera heureux lui aussi et ils gagneront tous les deux. Car le loup noir a des qualités. Il a la ténacité, le courage, l'intrépidité, la volonté et une grande pensée stratégique dont j'ai parfois besoin et dont le loup blanc manque. Le loup noir a besoin du loup blanc à ses côtés et vice-versa. Le loup blanc a besoin du loup noir à ses côtés. Si tu choisis seulement de nourrir l'un des deux, l'autre sera affamé et deviendra incontrôlable. Mais si tu les nourris tous les deux correctement, alors ils te serviront. Et ils ne feront rien qui ne fasse partie de quelque chose de plus grand, de plus juste, de relié à la vie. Lorsqu'il n'y a pas de combat à l'intérieur de toi, tu peux alors ressentir la voix de ton savoir intérieur qui te guide vers ce qui est juste. La paix est la mission de vie, Cherokee. Celui qui est déchiré par un combat intérieur n'a rien. Celui ou celle qui a su trouver la paix intérieure a tout. La façon dont tu prends contact avec les forces opposées à l'intérieur de toi déterminera ta vie. Affame l'une ou l'autre ou nourris les deux. Les deux loups, légende amérindienne, d'après la version de mon amie Elisabeth Tollier.